Alors, avant de démarrer, on fait le point sur ce qu'on fait.
Oui.
On a ici deux parties qui n'en font qu'un, puisque le jeu est un jeu de réciprocité entre le récit des cartes, c'est-à-dire que tu vas tirer des cartes et l'enchaînement des cartes vont raconter une histoire, de fait,
D'accord.
que toi t'interpréteras, c'est-à-dire que tu vas lire une première carte, une deuxième, une troisième. Notre fonction ici, c'est d'animer cette conversation que tu as sur l'interprétation des cartes et faire en sorte que, in fine, on trouve une logique du tout, à la fois de ton interprétation, du récit des cartes, pour trouver un tabou, pour savoir qu'est-ce qui rend difficile la parole à propos de X, Y, Z. C'est ça la règle du jeu. Alors nous, on n'est pas des influenceurs, on est des curieux en quelque sorte. Donc curieux de savoir ce que tu comprends et curieux aussi de notre propre analyse de ce que l'on entend et du récit des cartes pour influencer la recherche du tabou. Pas donner le tabou, mais dire oui, on ressent plutôt un tabou par ici, un tabou par là. On en ressent on dira pas tabou, on peut dire, je sais pas quoi, une difficulté de dire, une difficulté de s'exprimer sur le sujet X, Y, Z. Voilà l'idée.
Ok. Et j'ai oublié comment tu t'appelles.
Pardon?
J'ai oublié ton prénom.
Ah, c'est bien.
Alain.
Alain.
T'es
Non,
loin
pardon,
du.
j'avais dit j'ai oublié ton prénom et c'est Alain.
Alain. Oui,
D'accord.
mais t'étais loin du micro,
Oui, pardon. C'est vrai que.
J'ai pas entendu,
Oui.
ça a changé.
Après,
Ok.
on peut aussi avoir un moment où on rigole sur. Est-ce que vous voulez qu'on définisse l'interdit au début? Qu'est-ce que ça peut être un interdit pour toi? On s'en fout, on part dans la lecture des cartes.
Bah, je sais pas, l'interdit pour nous dans l'esprit du jeu, c'est tout ce que l'on ne peut pas dire. Alors c'est difficile de dire tout ce qu'on ne peut pas dire, donc il faut bien trouver l'objet qui permet de parler de ce qu'on peut dire.
Ben là, c'est la carte et surtout le voyage dans le temps, c'est-à-dire qu'est-ce que tu ne pouvais pas dire, mais à 10 ans. Ou qu'est-ce que tu ne pourrais pas dire à 75 ou à 82? En fait, on va s'amuser
C'est
avec
ça.
l'âge.
C'est ça.
On nous donnera par exemple ta carte par rapport à ton âge.
T'es trop loin du micro, je t'entends pas.
Ouais,
Excuse-moi.
ta carte par rapport à. Je vais revenir, moi, je vais juste faire
Oui.
l'annonce, il n'y a pas de technicien aujourd'hui.
D'accord.
Et après, je me mets avec vous. Et par rapport à l'âge, tu avais dit 46, on a déjà eu cette carte, donc j'ai fait 4 plus 6. Et du coup, on commence avec. Tiens, qu'est-ce qui nous aurait été interdit à 10 ans, de dire 10 ans? Et. Si tu vois, on va fouiller. Moi, tu vois, des fois, ça me dépasse. Je donne un exemple en disant, oh ouais, moi, à 10 ans, j'ai pas fait ça. Ah, bah, je m'en souviens, super. Et on passe à autre chose. Et puis après, on peut voir qu'est-ce que. On peut voir ou ne pas voir si ça a fait quelque chose. Une chevelure fluide, c'est ce qu'on cherche comme ça.
La construction du jeu, elle est
C'est
établie
attends.
sur le fait qu'on a l'agilité tous à
Attention, on passe en direct.
se remémorer notre enfance et se projeter dans notre futur.
Vous
C'est-à-dire,
aussi.
c'est ça, d'aller au plus loin de nous, jusqu'à notre vieil âge. On ne sait pas l'estimer, mais on peut s'envisager dans notre vieillesse. Voilà. C'est l'indicatif.
Ça commence. Je pense qu'on est à l'antenne.
Écoutez le tarot de la cité.
Et bonjour à tous, c'est la Cité des Interdits pour ce mardi 19 mars 2024. On fait la grève à la radio, on va dire nos interdits si les cartes nous dirigent assez bien. Bonjour Alain et bonjour Éléonore.
Bonjour Florine.
Bonjour.
Oh wow. Merci d'être là, je vous retrouve à la table, car je fais la technique pour ouvrir la première carte numéro 10. Allez-y. Tchouk, vas-y. Alors, c'est la carte qui est devant toi. Là, la bleue.
Ça, c'est la carte numéro 10?
Ouais. Vous pouvez le regarder sur le podcast de la radio. Tarot de la cité, cité des interdits. Ouais, c'est celle-ci, Alain. Et. Poursuivre l'image si vous le voulez, avec la vision. Est-ce que tu peux la décrire pour les auditeurs?
Oui. Alors, c'est une carte où il y a un fond bleu qui ressemble à une ville qui pourrait être New York, par exemple, avant qu'il y ait les Twin Towers, d'ailleurs, ou alors après. Et cette ville se répète deux fois. Une fois, peut-être, au moment où elle est plongée dans l'obscurité, et une fois où c'est la brume du petit matin. Et en dessous, tout en bas, c'est le sol. Donc c'est étrange parce que ça fait le sol, une ville, une ville. C'est pas vraiment le ciel en haut. Oula, j'ai donné un coup dans le micro. Et devant, il y a deux personnages, plutôt trois. Mais on sait pas bien leur état de vivant, de mort ou de fantôme. En fait, c'est marrant parce que le personnage le plus haut, il me fait penser à un robot. Et il a des bras qui fonctionnent comme le C de Carrefour qui est en creux. Donc on ne sait pas s'il existe du côté de ses bras, qui serait donc le paysage derrière, ou s'il existe du côté du corps plutôt apparent, qui laisse dépasser des bras. Donc en fait, c'est comme un espèce de personnage découpé. Et moi, comme ça, tout de suite, j'ai eu l'impression que c'était Terminator, du premier film Terminator 1. Enfin, quand c'est 1, on ne dit pas 1, mais voilà. Et au milieu de lui, il y a un petit... une blatte. Et j'ai jamais vu le film avec des ordinateurs et des blattes à la fois, mais qui est très connu, dont beaucoup de gens parlent, Brasilia. Mais j'ai l'impression que ça pourrait être un peu ce monde-là. Et Terminator, c'est vraiment un robot étrange, parce que c'est un robot, c'est l'horreur, et en même temps, c'est un robot qui devient un peu... Il y a une espèce de tendresse qui se crée autour de lui, donc c'est vraiment ambivalent. Et en dessous, il y a une sorte de petit Joker... c'est-à-dire que il est tout en rond, là où l'autre était plus en angle. Enfin, il avait quand même une tête ronde, mais il est plus rond. Et il a un peu une tête comme les bouffons, avec des petites mandibules sur les côtés. Et il a aussi, il est troué lui aussi. Et ces trous, même si ça ne ressemble pas à un cœur, un losange et un pic, moi ça me fait quand même penser à ça. C'est pour ça que j'ai dit Joker, on dirait un qui s'est évadé d'un jeu de cartes. Voilà.
C'est une description très dynamique,
très efficace.
Je peux être plus nébuleuse, hein, si vous préférez.
Ah non, non, non.
Non, mais c'est très descriptif et très intéressant. Après, ce qui nous importe aussi, c'est de comprendre si ça réveille un sentiment particulier, si ça évoque quelque chose de ton enfance, si ça a une correspondance avec une utopie, avec...
On a eu Terminator, est-ce que tu l'as vu vers l'âge de 10 ans, ce film?
Je crois que je l'ai vu un petit peu après, parce que je crois qu'il est sorti un petit peu après. Okay. Et en fait, je pense que, effectivement, ça m'évoque quand même cette époque-là, et ça m'évoque le fait de découvrir des choses, comment dire, qui correspondent, qui ne nous plaisent pas et qui nous plaisent à la fois. Et pour moi, c'est ça que cette carte pourrait représenter de l'époque des 10 ans, à plusieurs niveaux d'ailleurs, aussi à cause de la blatte. Parce que moi, j'ai souvent eu des problèmes de blatte, et j'ai toujours trouvé très troublant le désir d'exterminer toute une population de blattes. Parce que certes, on ne veut pas vivre avec des blattes, mais c'est bizarre aussi le rapport de territoire que j'ai pu vivre avec ces animaux. Et donc, il y a quelque chose comme ça, une espèce de d'étrangeté à se retrouver confronté à des choses qu'on aime et qu'on n'aime pas. Je dirais que cette carte, c'est vraiment ça pour moi.
Alain, tu fais un geste.
Oui,
tu...
parce que c'est la blatte. En fait, c'est un insecte qui appartient à l'enfance, bizarrement, dans l'histoire. Des cygnes et des insectes.
Dans le jeu, tu veux dire?
Donc il y a quelque chose. Comment?
Dans ce jeu?
Non, de façon de notre culture.
Ah, ok.
Oui.
Pourquoi?
Ah, ça, je ne sais pas. Je ne connais pas l'origine, mais je sais que c'est un insecte qui s'apparente à l'enfance et dont l'ambiguïté et le paradoxe, c'est qu'on l'aime et on ne l'aime pas. C'est ce que tu viens de nous dire, quelque part. À la fois, on le veut et on le... repousse. Voilà. Donc c'est intéressant Et le personnage dont tu décris qu'il est un Terminator, un robot, il porte ça comme une personne qui aurait imprimé sur son t-shirt cet insecte curieux. Donc oui, c'est une belle évocation.
Moi, j'ai un mot par rapport à l'indication du tarot et qui serait ce qui aurait été interdit par soi-même, en fait, par sa voix. Donc toi, tu as dit, c'est découvrir, moi, qui a été le mot-clé que j'ai pu piocher pour cette carte. Et là, donc, du coup, je me suis fiée à ce premier dé qui est là. Et je vois le grand thème, c'est l'infériorité. Donc peut-être c'est
j'ai pas compris.
Infériorité. Et quand tu dis on aime ou on n'aime pas, ce truc de l'infériorité, est-ce qu'on, avec cette image, on peut aller quelque part? Est-ce que ça t'évoque quelque chose?
Disons que... peut-être qu'il faudrait que je débloque du Terminator, mais si on reste sur le Terminator, il y a ce trouble de sa puissance éclatante et en même temps qui n'a aucun sens.
Ah oui.
Pas mal. Ouais, c'est bien, c'est super drôle.
C'est rigolo, je le trouve botté comme un cow-boy.
Oui.
C'est-à-dire qu'il appartient à une culture, parce que derrière, on parle d'une ville, on ne parle pas de n'importe quelle ville, enfin, bon, etc. Et il a l'air de sortir des légendes de ce pays, de cette culture. Et il est affublé de signes qui ne sont pas correspondants aux cow-boys et aux Indiens. Mais néanmoins, il y a quelque chose, enfin, il me semble, qu'il y a peut-être quelque chose à fouiller sur... quelle est sa tenue, pourquoi cette tenue et quel rapport avec la ville qui est derrière et le personnage qui est à sa gauche.
Ouais. En fait, c'est un esprit de conquête qui se poursuit, parce que c'est vrai que les bottes, elles me font penser aux cow-boys.
C'est ça.
Et c'est toujours cet esprit de conquête, mais qui a quand même un... Parce que quand même, le haut de son visage, ça me fait plus penser à un fantôme qu'à un Terminator. Et c'est comme un esprit de conquête avec cette dimension un peu mortifère mais persistante. Mmh. Et en même temps, il y a un petit truc... Il y a quand même un petit truc fragile là dans la tête et puis dans les le personnage à côté.
Oui.
C'est un peu dur d'être dans des sentiments avec lui parce qu'il a une façon de rigoler qui est quand même comment dire comme s'il était tout seul. Mais je trouve que il amène de la bouffonnerie, ce qui est quand même une bonne façon de dire l'esprit de conquête qui est en train de se diluer là dans ce fantôme n'est pas la seule finalité. On peut la contrebalancer en mettant de la bouffonnerie. Donc, moi, j'aurais envie... C'est compliqué, je trouve cette carte, elle est compliquée, parce que c'est pas une carte qui me met dans un état de poésie et d'amour, mais c'est une carte qui fait plutôt circuler tous ces...
Toutes les équivoques,
oui. Ouais, toutes ces équivoques, exactement. Et ce bouffon n'est pas particulièrement sympathique, mais il fait quand même du bien.
Oui, oui, oui. C'est très juste. Oui. Bah déjà, parce qu'il est... Parce qu'il rigole et se moque de qui ?
Ben, il nous regarde, oui. Mais il se moque aussi de celui qui est derrière. C'est comme s'il était un peu dans les deux sens, quoi. Ouais.
Mais par contre, il se moque pas de lui-même.
Ouais, je suis d'accord.
Il est triste à l'intérieur. Il a même pendu un peu parce qu'il a le visage inversé pour moi. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Ah. Je la regarde à l'envers.
C'est comme s'ils sont... Enfin, tu vois ?
Si vous... Ah voilà, oula, il fait aussi une grimace à l'envers, ouais. C'est vrai, ça. Tout d'un coup, il a des mandibules qui lui tombent un peu mollement, des bajoues un peu.
D'accord. Bon.
Et... Moi, je suis toujours curieuse, mais c'est mon mental qui veut... Bon. Je passe. Il y a les deux villes là. Qu'est-ce qu'elles te font? Pourquoi? Qu'est-ce que ça te fait ça? Cette ville, j'ai pas les mots, mais
brumeuse.
Ouais. Et puis.
Et nocturne.
Il y a négatif, positif là.
Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais moi, ça me donne l'impression de. C'est pour ça que ça me. Ça me donne l'impression d'un monde qui est refermé, en fait. Et du coup, dans cette idée de domination là, de l'espèce de pseudo-terminator,
oui.
C'est lui qui referme, en fait.
Oui.
C'est lui qui dit « ceci est le monde », en fait.
C'est ça.
Il permet pas que ce soit plein de choses, parce qu'il veut que ce soit contenu. Enfin, vu qu'il est dans la carte avec ça derrière lui, il n'y a pas de ciel. Enfin, il y a un peu de ciel, mais on sent bien que si la carte continuait, on aurait peut-être encore des étages de ville les unes au-dessus des autres.
Ok, donc enfin, c'est comme si à l'âge de 10 ans, il y aurait eu cette problématique de comment découvrir, est-ce que j'en ai marre de découvrir, je vais rester dans ce que je suis, enfin dans ce que je connais, je passe à autre chose.
Moi je me souviens d'un truc quand j'avais 10 ans, si je peux me permettre. De...
Yes, ah, ouais. You can't do it.
C'est que je me souviens que les adultes me s'adressaient à moi comme à un petit enfant. Et moi, je savais que je comprenais les choses. Et je m'étais fait la promesse, je m'étais dit, visiblement, ils ne se rendent pas compte que je comprends complètement de quoi on parle. Et je m'étais dit, il faudra que je me souvienne plus tard, quand je serai vieille, et que je m'adresserai à des gens de 10 ans qui comprennent les choses. Et après, j'ai repensé, et effectivement, je suis surprise parfois à m'adresser à des gens de 10 ans avec un a priori qu'ils n'allaient pas capter. Et heureusement, ça m'a tellement marqué que je m'en suis souvenue, et ça m'a permis... Enfin, je suis obligée de me le redire, hein, parce que je tombe dans le panneau.
Oui.
Mais voilà, je sais qu'à 10 ans, ça a été un moment où j'ai vu les gens me mettre dans une case qui était visiblement pas la bonne pour moi, quoi. Oui. Enfin, c'est-à-dire, c'est le moment où on comprend vraiment déjà un peu... Enfin, on comprend pas tout, mais il y a vraiment un truc du monde des adultes qui nous est pas étranger.
Ouais.
On n'est plus un petit enfant. Ouais. Et y avait vraiment ce décalage. Uh-huh. Et tout à l'heure, on parlait du truc de Terminator, là, de aimer, pas aimer. Je pense que pour moi, c'est aussi le moment où on rentre dans des aimer, pas aimer.
Quand on commence à faire du tri.
Hein ?
On rentre dans des...
Dans du aimer, pas aimer. C'est-à-dire dans cette espèce d'ambiguïté, de se coltiner des choses qui sont peut-être moins dans un rapport direct de faire, de plaisir. J'ai l'impression que ça devient un peu plus... on traverse des choses qui nous échappent peut-être un peu plus. Enfin, je sais que le fait d'avoir aimé le film Terminator m'avait mis dans un état de perplexité.
D'accord.
Mais je veux bien débrancher un peu du Terminator. C'est vrai que j'y retourne tout le temps.
Non, mais c'est bien, c'est peut-être parce qu'on n'a pas... La perplexité. Peut-être tu peux répéter cette perplexité. Tu vois, pour que j'arrive à le dire.
Hier, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il était radicalement perplexe. J'ai trouvé que c'était une jolie formule. Parce que la perplexité, on a l'impression que c'est quelque chose de plutôt... comme une espèce de grosse zone un peu longue et peut-être un peu molle avec des raffinements. Et bien, être radicalement perplexe, je trouve que ça veut dire que tu... Oui. Tu es profondément pris par quelque chose qui est pourtant profondément trouble.
Oui, multiplie les interrogations.
Ok, je crois que je vais me lancer sur cette piste pour cette semaine. J'ai été radicalement perplexe hier. Ça me parle beaucoup. Bien, on a demandé une musique qui nous faisait penser... Enfin, j'ai demandé une musique qui te faisait penser à quand tu avais 10 ans, plutôt. Si je parle français, c'est mieux. On va l'écouter. Je vais la faire passer et après on tirera... La carte suivante, c'est OK pour la lecture de cette
D'accord.
carte.
D'accord. Très bien.
Allez-y.
C'est parti.
De la sierra, morena cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. De la sierra morena, cielito lindo vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque canta. cantando se alegran cielito lindo los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ese lunar que tiene, cielito lindo junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones.
Nous allons revenir au jeu et ouvrir la carte numéro 2. Tac, 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 tac. Nous sommes dans la Cité des Interdits sur Radio Campus Grenoble. À vous, Éléonore, est-ce que tu veux lire la, comme tu as fait tout à l'heure ?
D'écrire la carte ?
Ouais, merci. Excuse-moi.
Alors,
super.
Donc, cette fois, le fond de la carte, c'est la plage, la mer, le ciel. Il y a, à part le personnage principal dont je vais parler, il n'y a personne d'autre. Et il y a un personnage au premier plan. On a l'impression qu'à la base, c'est une photographie un peu de type photo de charme, à la limite d'être, d'être à côté d'images porno, mais c'est plutôt charme. Donc il y a un corps de femme avec une poitrine forte et un corps bien en forme, bien tenu, qui est devant cette plage. Mais c'est pas si simple, puisque en fait ce corps est en partie recouvert, notamment on voit pas le haut des cuisses, le sexe, le ventre et une partie du sein, parce qu'il y a un oiseau bleu qui recouvre ce corps, qui, alors je suis pas très forte pour reconnaître les oiseaux, donc je saurais pas dire exactement à quel type d'oiseau ça appartient, mais en tout cas c'est un type de plume que j'ai déjà vu quelque part, sauf que c'est en bleu, donc c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait sûre que ce soit un oiseau qui existe. Mais voilà. Ensuite, au niveau du visage, il y a un masque qui pourrait être d'un pays, en tout cas, pas d'ici. Je ne sais pas du tout si ça serait un masque qui ressemblerait un petit peu à ce qu'on peut trouver en Nouvelle-Calédonie ou alors ce qu'on peut trouver sur le continent africain, quelque chose comme ça. Il est rose et noir. Il est assez stylisé, c'est-à-dire il y a des lignes assez... géométrique. C'est assez beau, ça tranche avec la photographie, ça fait dessiner, ça tranche avec l'oiseau qui semble un peu posé par Photoshop. Là, ça fait aussi poser comme ça, mais ça fait plus dessin. Et au-dessus, il y a un petit truc qui est entre le totem et l'animal et le dessin, qui a des jambes bien écartées, qui se tient comme un petit moustique qui aurait mis ses jambes, un moustique papillon qui aurait mis ses jambes écartées, moustique papillon fée. Et qui est assez qui donne comme si c'était le chapeau de ce masque, mais qui donne je dirais l'humour et la légèreté qui sont définitivement pas très présents par ailleurs, donc heureusement qu'on a ça. Voilà, donc sur cette femme qui est devant une plage mer ciel, nous avons 1, 2, 3 choses qui ont été apposées. Et son corps est très orange, il prend la lumière visiblement d'un coucher de soleil, qu'on ne voit pas. Voilà.
C'est la carte numéro 62. Si tu avais 62 ans, elle t'évoquerait quoi, cette carte ?
Ah, par exemple. Eh ben... Ouais, C'est quand même une carte qui raconte tout le truc un peu compliqué d'être femme, corps, un corps, avoir un corps qui doit des critères, des voilés cachés, enfin toute cette espèce d'énorme lourdeur qu'il y a autour de l'injonction à être femme d'une certaine manière. Ça raconte quand même ça. Et du coup, je pense qu'à tout âge, j'y penserai. Et puis, ça me rappelle un conte aussi sur une histoire de peau de phoque qu'on m'avait offert, avec une femme qui... c'est des contes assez connus, qui sont assez beaux, qui sont avec des variations. Et c'est un homme qui vit dans le Grand Nord, où il y a des phoques. Et puis un jour, ces phoques, ils vont sur une île, ils enlèvent leur peau, puis ils se mettent à danser, tout ça, puis... Ce sont des femmes très belles. Et il dérobe une peau de phoque. Donc, il y en a une des femmes très belles qui danse qui ne peut pas redevenir un phoque. Donc, elle se met à errer. Et lui, comme par hasard, il se retrouve sur son chemin. Il la rencontre, il l'épouse, il fait des enfants. Et elle cherche sa peau de phoque. Et il lui dit, mais je te la rendrai, en fait, c'est moi qui l'ai. Et il lui rend jamais. Et en fait, elle dépérit. Et finalement, j'ai un peu oublié au moment de vous raconter. Mais finalement, voilà, tout le problème est de retrouver cette peau de phoque. C'est-à-dire, à un moment donné, ces situations où on vole aux gens leur identité pour leur demander de remplir un rôle. Et là, cette espèce d'oiseau posé sur cette femme me fait un peu penser à la peau de phoque, qui pourrait être une espèce... C'est-à-dire, cette femme avec son corps... limite image porno, elle représente vraiment un cliché du désir tel qu'on l'a très souvent mis en scène. Et en ayant cet oiseau sur elle, c'est comme si ce corps pouvait aussi être autre chose, en fait. Et puis le masque, on a l'impression que ça la protège et que ça lui permet de pas avoir à composer un visage.
Il y a... Ouais.
Donc, si j'avais 62 ans, c'est vraiment ça que je penserais.
Au visage, à la composition
à
du visage.
ok. Et je me dirais que c'est pas mal. En fait, le petit animal au-dessus, ça me fait aussi penser au poisson pilote. C'est-à-dire que peut-être qu'avec le masque, elle n'arrive pas très bien à voir, parce que c'est compliqué. Et peut-être c'est mieux d'être masqué parfois plutôt que d'être pas masqué. Mais tu as peut-être du coup besoin d'acolytes qui te disent ce qu'ils voient à l'horizon. Et là, on a l'impression que lui, il gagne en visibilité tout en étant presque rien, puisque son corps est tout blanc et tout fin.
Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est notre symbole, la menthe religieuse dans le jeu.
Oui.
Ah oui.
La menthe religieuse représente une partie de nos âges.
Une partie de nos âges ?
Oui.
Quand entre... 42 et 63. C'est un temps qu'on a défini comme ça, parce qu'on a le temps de l'enfance, quand même, jusqu'à 21 ans, puis après on rentre forcément dans le devoir de fonder, puisque nos corps, dans l'idée, l'âge est intrinsèquement. C'est conçu comme ça, ce jeu, c'est qu'il y a quand même des périodes liées à l'âge qui sont concrètes, et notamment par le corps. Et donc là, il y a une période entre 42 et 63 ans qu'on a symbolisée par la menthe religieuse. Et est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Alain, à cette description de la carte
Ce qui me questionne beaucoup dans ce que j'écoute, dont je trouve une pertinence incroyable, c'est exactement l'énigme de la question du paraître. À quoi est destiné ce paraître de cette carte? Donc, à quoi est destinée cette femme dans cette parure? Parce qu'on est plus dans la parure que dans la profondeur de l'existence de la femme. Elle est un objet, comme tu l'as dit, codé, un objet de désir codé, qui n'est pas, enfin, qui est contradictoire avec l'idée même d'humanité d'une femme. Mmh. Et ça m'a beaucoup touché, parce que c'est la difficulté de cette carte, c'est d'arriver à identifier qu'est-ce que c'est que ce rapport que l'on a voulu attribuer dans l'imagerie de la mode, dans l'imagerie publicitaire, qu'est-ce qu'on a voulu attribuer à la femme pour créer un désir de femme à l'égard d'une telle image. Qu'est-ce qui s'est passé?
Est-ce que c'est forcément publicitaire? Est-ce que c'est pas la découverte du corps, des hormones, des désirs? Je veux dire, est-ce que c'est pas depuis tout temps que ce corps, même dans son... Enfin, il y a plein d'interdits, notamment liés à la passion, qu'on fait très jeune, ou pas, mais... Si c'est de 8, ce serait peut-être à partir de 8 ans déjà, on commence à percevoir ses désirs et à voir son corps bouger. Je sais pas si c'est toujours...
Moi, ce que j'aime bien, c'est que quelque part, le fait qu'on voit sa poitrine, mais il y a plein d'autres endroits qu'on ne voit pas, en se mettant de son côté, je dirais,
oui.
Ça donne l'impression que y a une situation de se protéger, tout en permettant que des choses soient. C'est-à-dire, à un moment donné, peut-être qu'il y a l'idée de ne pas se donner en entier ou de ne pas se rendre visible en entier. Mais pour aussi... Je veux dire, cette poitrine-là, elle est quand même vachement présente, mais en même temps, elle est hyper protégée par les autres éléments de la carte. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que c'est une protection qui... où moi, j'ai l'impression que cette personne peut vivre quelque chose avec son corps tout en le protégeant. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est, ça ne va pas que dans un sens.
Ouais.
Ça a l'air assez confortable, ce masque. Enfin, c'est-à-dire, ça doit être un peu étouffant à l'intérieur, mais ça donne aussi la possibilité de cacher un petit peu qui on est. Peut-être pour trouver une liberté. Parce qu'en fait, dans le masque, il y a toujours un truc double. À la fois, le masque, c'est un peu glauque, parce que ça veut dire on se dérobe, ou alors on a peur, ou comme quand il y avait le Covid, ça fait un truc de coupure. Mais c'est aussi le masque du carnaval, où en fait, tu peux autoriser des choses qui, normalement, n'existent pas, parce que tu es masqué. Le masque, c'est aussi prendre des formes différentes. Et là, ça donne l'impression qu'il y a peut-être une espèce d'érotisme plus libre du fait qu'il y a un masque, alors que sans le masque, on serait dans l'image du gala magazine.
C'est ça. Si on fait maintenant marche arrière, par exemple, on reprend le héros de tout à l'heure, est-ce que le... Comment évolue le personnage du Terminator à... Est-ce que on pourrait qualifier quelque chose qui est une filiation entre notre Terminator d'enfant et cette identité apparente, je dis bien apparente, c'est-à-dire celle que l'on propose, comme tu viens de le dire, le masque va permettre d'extérioriser quelque chose qui est de l'ordre de l'interdit. Qu'on s'interdit. Et le jeu du carnaval, c'est justement d'extérioriser une partie de l'interdit pour s'en moquer, pour le transporter, pour le transformer, pour le faire bouger. Bon. Voilà, ma question, elle est, je ne sais pas si tu la comprends. Je ne sais pas si elle est très claire. Mais...
Je ne sais pas si je la comprends, mais ce que je dis, mais peut-être que je vais me répéter un petit peu, c'est que j'ai l'impression que les deux sont masqués en fait.
Oui.
Et les deux ont des petits bonhommes qui sont un petit peu en différents. Là, le bouffon et puis ce que je l'appelle la libellule là, qui est la montre religieuse.
Ouais.
Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que dans la filiation entre les deux, c'est que le bouclier qui était peut-être constitutif du Terminator devient le bouclier qui était peut-être un bouclier de qui venait de l'esprit de conquête devient un bouclier qui n'est pas le bouclier de l'esprit de conquête. C'est un autre type de bouclier, qui est peut-être une espèce de protection qu'on sait se donner pour pouvoir aller à l'avant de l'autre, de l'aventure et tout ça. Donc c'est plus la même... C'est plus offensif, en fait. C'est plutôt un bouclier de protection qui crée une possibilité d'être devant.
C'est ça. Et où se trouve la filiation entre la description du Terminator que tu viens de nous faire, qui est éclatante, qui est pertinente, et le personnage féminin sur sa plage ?
Comment ça?
Est-ce qu'il y a une fille de, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une identité semblable entre le Terminator et la description de son, ce que tu appelles le bouclier qui se transforme à son avantage, et l'accoutrement de déguisement presque. Parce que c'est un déguisement. Enfin, l'oiseau bleu est aussi une forme de déguisement. Le visage est déguisé. Tout est déguisé pour. Voilà, je sais pas. Qu'est-ce que ça peut. À quoi ça peut nous faire penser, cette idée du déguisement? Et qu'est-ce qu'on déguise? On déguise. Le déguisement, par propriété, c'est de cacher quelque chose du réel, je crois.
Pas tout à fait, ça peut être aussi devenir le rêve.
Ah.
Secret, qu'on s'interdit d'être dans la réalité.
D'accord, oui.
C'est l'inverse, là.
Oui.
Peut-être.
Oui.
Enfin, je dis ça, mais l'indication, c'est ce que du soit de la carte en fonction.
Oui.
Les rêves seront révélés par des.
Oui.
Enfin,
oui,
peut-être
oui.
Que c'est.
Oui, je comprends ce que tu dis, oui.
En tout cas, je sais pas, peut-être il y a un truc autour de. Je sais pas. Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose d'animaux dans les deux possibles. Dans le Terminator, il y a cette blatte, mais elle est symbolique, elle est figée.
Oui.
Et l'oiseau qui est posé là sur cette femme, il est on ne sait pas bien s'il est en vie, mais il semble être comme un double d'elle-même.
Ah.
Donc il est beaucoup plus
intégré,
il est beaucoup plus en lien.
Ah.
Et je me dis que pour moi, il y a une filiation comme ça de se créer des protections avec des choses qui sont beaucoup moins figées. Donc il y a quelque chose qui est quand même plus en mouvement.
Ah.
Mais je ne saurais pas. Je saurais pas forcément. Est-ce qu'il y a plus de filiation? Est-ce qu'il y a plus de filiation?
Je parle de filiation parce que j'étais troublé que tu décrives Terminator comme le héros. Et quand tu ouvres cette carte, subitement, est-ce qu'on est face à une héroïne?
Ah. Ah oui. Alors en fait, je vous comprends mieux la question là.
Oui.
En fait. Comme Terminator existe par ailleurs comme sorte de prénom, il existe dans le monde dans lequel je vis comme héros.
Oui.
Alors que là, ce personnage est de la femme recouverte de ces choses, elle est trop complexe, elle n'existe pas dans un film par ailleurs.
Oui.
Donc du coup, je trouve qu'elle est beaucoup plus... elle va représenter des choses beaucoup plus larges que ce qu'un héros peut représenter.
Oui. Donc on a progressé dans le temps et la maturité.
On pourrait dire ça.
Oui. Je veux dire, si on a l'âge dit de la carte, on comprend mieux peut-être la question des identités, l'identité la sienne et l'identité que l'on donne et qu'on attribue, à défaut d'ailleurs, tu l'as dit, dans l'enfance, dans ton enfance, on t'attribuait une identité, des savoirs que tu contestais, puisque tu vas récupérer cette identité des savoirs pour pouvoir, toi-même, adulte, devenu adulte, te protéger de cette classification qui ne correspond pas à ta réalité vivante de toi. Voilà, c'est un petit peu... J'essaye. Je sais pas.
Est-ce que tout va bien?
Oui.
On va se rappeler qu'on est sur Radio Campus Grenoble, que vous pouvez regarder les images... sur le podcast de la radio Cité des Interdits avec Éléonore, et on va écouter une musique pour se relaxer un petit moment.
Hello, cotte, nous, elle est maman. J'en sais rien. Tu crois qu'on saura parler comme ça? J'en sais rien. Viens, donne-moi la main. Mélocotone, mémé, elle rit souvent. Tu crois qu'elle est toujours contente? J'en sais rien. Viens, donne-moi la main. Périne, elle est grande, presque comme maman. Avec moi, j'en sais rien, viens. comme papa. Pourquoi? J'en sais rien.
Ça y est, nous revenons.
Bravo, 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 Florie.
J'allais servir un peu de kéfir, mais je reviens à nous. Hop là. Et merci de votre écoute. Éléonore a pioché une troisième carte que j'ai placée sur le podcast, si vous voulez suivre l'image, et qu'on va pouvoir détailler maintenant pour suivre cette lecture. Merci.
Je t'en prie.
Je décris.
Allez, pourquoi pas, j'aime bien.
Alors, donc, c'est une carte qui est faite en deux parties. Deux parties égales. À gauche, noir et blanc. À droite, plus de couleurs. Dans les deux cas, ça représente une personne. Il y a un visage qui se voit. Et puis, il y a un petit animal, une sorte de scarabée, des deux côtés, en fait. Et c'est très en mouvement, en fait, à gauche comme à droite. Ça semble un peu plus en colère à gauche, un peu plus en boubou à droite, on ne sait pas trop. Il y a quelque chose comme ça qui bouge, mais qui n'est pas vraiment arrêté. Et je ne vois pas de bouche à droite. Ça fait un peu comme si c'était vaguement cubiste. Enfin, c'est-à-dire, je ne sais pas comment ça s'appelle ce style, mais moi, ça me fait un peu penser à ça. Et à gauche, je ne sais pas bien comment ça s'appellerait, mais ça me fait penser à des illustrations où tout d'un coup il y a des personnages qui sont un petit peu qu'on peut aimer hein, mais qui peuvent être un peu maléfiques, qui peuvent se transformer. La vilaine fée parmi les bonnes fées, tout d'un coup elle a ce visage alors qu'elle juste avant elle l'avait pas, quelque chose comme ça. Donc voilà pour la description.
Alain, tu as une autre idée de cette carte et je crois que j'aimerais bien l'entendre.
Tu veux que je parle de la carte?
Oui, parce que c'est très différent.
Ah ben, c'est... c'est une confrontation, bizarrement. C'est une confrontation de génération, confrontation de culture, et c'est introduit par ce que tu dis sur la représentation noir et blanc à gauche, où le personnage est mouvant. Il n'est pas émouvant, il est mouvant dans le sens où il se bouge lui-même. Il pourrait se changer, se métamorphoser. Et celui qui lui fait face est aussi dans une période qui n'a pas une situation fixe dans le temps. Voilà ce que je peux dire de ce que je ressens, c'est-à-dire qu'on est en présence d'une confrontation des temps. C'est comme si nous avions, nous, en nous, des confrontations sur nos temps personnels, notre temps, dans le temps de nos vies, quand on a été confronté à des temps multiples.
Oui, tu veux dire, là c'est le temps d'écrire, là c'est le temps de danser, là c'est le temps de jouer, le temps du quotidien.
Par exemple.
Oui. Et comment on construit notre quotidien? Est-ce que je mets 10 ans à faire cette épreuve? Est-ce que j'en mets 7? Est-ce que j'en mets...
Oui.
Ce genre de temps-là.
Quelle projection on va faire du temps dont on dispose, le temps qui est le nôtre et qu'on n'envisage pas mathématiquement, mais qu'on envisage dans les désirs, plus que dans la temporalité au sens mathématique du temps. C'est pas l'âge qui va définir, c'est le désir qui va modifier notre représentation dans le temps. Voilà, c'est à peu près ça, mais c'est très confus. C'est très confus, je veux dire, j'affirme pas ces choses-là, mais l'identité de chacune des images pourrait peut-être parler de nos diverses temporalités. et temporalité des désirs. Ah.
Moi, j'aurais dit divers états aussi. Mm. Nos divers états. C'est-à-dire qu'on est, on est plusieurs états.
Ah, oui.
Dans la façon dont c'est peint, effectivement, c'est pas fixe. Puis je vois pas vraiment d'hierarchie entre le personnage à gauche et droite. Ils sont chacun dans un état, chacune dans un état, mais il
oui.
y a pas de, il
oui.
y a pas de, de récit que
conjoint.
Que quelque chose serait plus plus à suivre. C'est ces deux états, quoi.
Ouais.
Ah oui, c'est pour ça que je t'ai interrogé, Alain, parce que on a certainement déjà vu cette carte. Enfin, j'ai dans mon souvenir que le personnage de droite pour toi est un homme.
Oui.
Et toi, est-ce que tu la décris comme une femme qui serait plutôt sévère?
À droite, c'est en couleur, tu veux dire?
Oui.
Non, celui de gauche est un homme.
Ah, moi j'ai vu des femmes. Hein. J'ai vu des femmes, mais bon, on voit en fonction de ce qu'on est. Hein.
Oui, voilà. Mais ça changerait si je te dis que la carte là, c'est un homme. Est-ce que ça change pas ce que tu racontes est-ce qu'il y a des colères, comme tu as vu de la colère,
oui.
qui, avec lesquelles tu as pu. Laisser à leur. Enfin, ne pas t'associer, tu vois, je sais pas comment
dire. Ah oui, se couper. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, t'as raison, c'est vrai.
En fait, c'est d'un coup prendre parti. Parce que moi, je trouve la figure de droite hyper joyeuse dans sa couleur. Enfin, je sais pas, il y a une espèce de. Je suis comme ça. Et en face, il y a ce noir et blanc qui est. Mais c'est Paris. Et.
Ouais, t'as raison. Mais en même temps, par contre, ils ont en commun le petit cafard, scarabée, pardon.
Scarabée.
Ouais. Alors, le scarabée, si c'est... on peut dire que, du coup, le premier qu'on voit sur la tête de lui, ou d'elle, ou de cette femme sévère, ou de cette... on va parler de la voix intérieure qui est dans la tête et d'un désir d'évolution dans le cœur à droite. Mm-hmm. Par exemple, ça peut être les pistes. Alors, est-ce que, du coup, il y a une confrontation d'ignorance entre ces deux choses, la voix intérieure dans la tête et l'évolution du cœur.
Peut-être il y a quelque chose de l'ordre du tiraillement qui... Parce qu'il y a plein de petites ficelles, de petits fils à gauche, et puis à droite, il y en a un peu moins. Mmh. Et effectivement, peut-être qu'à un moment donné, ça fait des fils de partout qui, en fait, éparpillent un peu le personnage... Et ensuite, les fils sont plus comme des petites vagues au-dessus de sa tête, qui l'éparpillent moins, parce que finalement, ce cafard en bas, il est placé à l'endroit du cœur, ouais, pourquoi pas. Mais au début, j'ai cru que c'était un chat.
c'est bien les chats.
Je trouvais ça assez sympathique, le petit chat, là, à côté de l'épaule. Ah. Mais bon, les scarabées, c'est sympathique aussi.
Oui. C'est différent dans le jeu. Après, c'est des. Est-ce qu'on regarde ou est-ce qu'on regarde pas, c'est symbolique, est-ce qu'on plonge dedans ou pas. Si y a un lien qui se fait entre tes images, c'est que y a beaucoup de bleu sur chacune. Et ici, il y avait du blanc au départ, et là, il y a le retour du blanc.
Ouais, c'est vrai.
Il y a quelque chose au niveau des couleurs. Donc, là, une grande volonté de clarté et une grande volonté de pour moi le blanc c'est la volonté de clarté dans la matière et le bleu c'est le rêve circuler librement dans la cinéa, dans la pensée du rêve.
Mais c'est marrant parce que je trouve que je suis d'accord avec toi dans l'idée du blanc, mais là dans ces cartes là le blanc c'est plus un blanc un peu comme ça, c'est-à-dire dans la posture du personnage de la première carte, il est comme ça. Et après, dans le fond de l'autre, on sent que c'est le vide. Je trouve que c'est un blanc plutôt qui glace.
Ok.
Alors que quand il y a du bleu, tu vois, le bleu, il fait du bien, le bleu de l'oiseau, et ensuite le bleu de l'autre femme. Donc je trouve que c'est un blanc qui demande à être défini.
Oui. Oui. Oui, est-ce que... Alors là, je vais mettre les deux pieds dans le plat.
Vas-y.
Si on fait l'hypothèse que... Il y a une force de dépassement à travers le récit des cartes, c'est-à-dire entre la première que tu tires, puis la deuxième, puis la troisième, est-ce que cette force du déplacement, ça a du sens? Et si ça a un sens, qu'est-ce qui l'anime? Qu'est-ce qui permet d'animer cette force de dépassement?
De dépassement ou de déplacement?
Non, de dépassement et de déplacement. De déplacement parce qu'on va se déplacer. Il est vrai qu'entre Terminator et la dame à l'oiseau bleu, et c'est le récit des cartes que je trouve intéressant et qui n'est pas tout à fait facile à comprendre pour qu'il y ait... il puisse être identifié maintenant à ce niveau de la découverte, au niveau de ce que toi tu racontes, qu'est-ce qui va nous introduire dans un tabou. Alors on y est, ça y est. Quel est l'endroit qui manifestement a difficulté à se dire?
Tu veux un indice?
Oh, oui.
Donné par le livre du tarot?
Avec joie.
Il y en a deux. Il y aurait peur de mauvaises nouvelles ou mort, fragmentation. Est-ce que le tabou de la mort ou de la peur qu'on nous annonce est-ce que ça peut donner un indice, Alain, dans ton truc? Pas
non,
tant.
Non, pas exactement, parce que moi, je voulais savoir si le dépassement et le déplacement avaient constitué quelque chose qui est de la dynamique du changement, qui permet le déplacement. C'est qu'est-ce qui va nous entraîner à vouloir dépasser Terminator, à vouloir dépasser l'image que l'on a voulu nous donner et qui n'est pas celle que nous vivons dans notre intimité. Qu'est-ce qui va être le moteur de cette histoire?
L'amour, par exemple, tu veux dire?
Par exemple, donc ça pourrait être.
Ok.
C'est la question posée à Éléonore, Si toutefois tu vois quelque chose qui est possible, sinon passe à autre chose.
Je réfléchis, non?
Je t'en prie.
En fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression que dans Terminator, qui est lui-même un peu super en impression avec la ville, là, il est un peu en on-off, là, ses bras, ils sont en creux, donc il est un peu mélangé. Ensuite, la femme qui est plus libre parce qu'elle s'est recouverte de trucs, plutôt que d'être juste comme ça, on a des agrès qui sont ajoutés, et puis, enfin, je sais pas si c'est le terme, agrès.
C'est bien.
Et après, dans la dernière, j'ai l'impression que c'est comme si la personne s'était un petit peu séparée en deux pour se voir elle-même.
Ah.
C'est-à-dire que malgré tout, les visages sont quand même un petit peu tournés l'un vers l'autre. Alors à gauche, le personnage a l'air très en colère,
oui.
Et à droite, non. Mais à droite, le nez est quand même tourné. Et du coup, j'ai l'impression que ça me donne
oui.
Du déplacement. C'est que on passe de superpositions qui permettent d'appréhender peut-être le monde et les autres à une espèce de division de soi-même en deux pour se regarder, pour créer à l'intérieur de soi un miroir. Et que peut-être, ce qui est très difficile, ça serait de découvrir qu'on n'est pas d'accord avec soi-même.
Ça, ou de voir qu'en fait, on est terrifiant. Ça, c'est les premières
voilà.
Prémices qu'on comprend quand on devient adulte, je ne sais pas vers quel âge, mais... Et du coup, effectivement, c'est une très belle image parce que ça arrive à un moment donné où on est obligé d'être confronté à soi-même.
Mais est-ce que...
Non ? Vas-y.
Subitement, j'ai un truc qui me vient. Mais c'est incroyable. J'ai l'impression que tout d'un coup, tu viens de nous parler de douleur.
Ouais. C'est vrai. T'as raison.
C'est stupéfiant. Mmh. Pourquoi ? Là, c'est vraiment complètement intégré au jeu. Pourquoi le fait de tirer des cartes, le fait d'en faire un récit, ça permet in fine de trouver quelque chose qui est au cœur de la question. Et le cœur de la question, il est tabou, précisément. Et là, on peut suivre un chemin de la douleur, je trouve.
Par l'aide de l'image et de sa lecture, tu veux dire?
Oui, du récit que Éléonore en fait, parce que la douleur est cachée, mais elle existe. Et là, tout d'un coup, je ne sais pas, on a levé le lièvre. C'est qu'on attribue à cette femme qui semble s'accomplir dans la carte dernière tirée sur fond bleu, une solution pour elle, mais qui a été permise par une douleur. Alors, je voudrais relancer, si vous en êtes d'accord, d'essayer de parler de si on considère que la douleur est taboue, à quel endroit la douleur est taboue et sous quelle forme.
En fonction de la lecture des cartes ici.
Oui, et du récit d'Éléonore et du récit des cartes, c'est-à-dire la combinaison des deux, comment ça évolue, comment le récit se construit et comment on en arrive subitement à la question de la douleur, qui est effectivement induite dans cette dernière carte. Et je trouve qu'il y a une... Oui.
Peut-être que c'est un... Je sais pas, c'est difficile de parler de quelque chose qui est tabou. Et peut-être que la douleur est tabou dans la mesure où elle raconte quelque chose qui se situe plus du côté de ce qui est... Je suis pas sûre. J'allais dire de ce qui est irrésolu, de ce qui est, de ce qui n'est pas... En fait, je sais pas, là, j'ai des vagues choses qui traversent ma tête et quand j'essaie de les mettre en mots, ça n'existe pas.
Ça va très bien dans cette carte qu'on a trouvée, c'est confrontation d'ignorance. Enfin, toujours.
Hein. Ah oui.
Donc, du coup, c'est marrant qu'on. Tu vois, et faire un choix, là, entre. Ça pouvait paraître une très bonne idée et en même temps. Tu vois, tu te doutes ou tu te dis que c'est pas forcément ça, et bien c'est parfait en fait.
Moi, je trouve que le chaos que tu viens de donner à propos de la difficulté de parler de la douleur, c'est précisément parce que nous n'avons pas coutume à explorer notre douleur ou la douleur de l'autre pour en donner des formes d'émancipation. C'est difficile.
Ouais.
C'est difficile de parler de la douleur parce que c'est à chacun porte sa douleur. Mais si je regarde la douleur de l'autre, je porte aussi sa douleur, mais c'est une douleur différente de celle que tu portes. Et donc, si on doit dire qu'il est important de parler du tabou de la douleur, ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à faire un langage commun, un minimum de langage commun qui peut nous faire entendre la douleur de façon commune et pas seulement séparée.
Oui.
Je sais pas si tu me comprends. Je comprends très très bien l'hésitation à en parler. Je comprends très bien tout le bousculement que ça a subitement créé chez toi, parce que c'est très fort en fait.
Le micro, Alain.
C'est très sensible et très fort. Et donc, c'est tellement intériorisé et c'est tellement peu dit que comment on le partage? Si je veux partager quelque chose qui est bon, qui est mauvais, je suis obligé d'aller dans le sujet même, au cœur de ce sujet. Donc il n'y a pas d'urgence, ce que je veux dire. Il n'y a pas d'urgence à définir le tabou de la douleur, mais simplement prendre conscience, parce que c'est une difficulté de nos existences communes et personnelles, de s'émanciper de la compréhension de la douleur. Voilà, c'était ce que j'essaye de faire.
Et en même temps, il y a ce petit bouffon qui vient nous, qui vient nous voir pour qu'on passe l'âge d'être enfant. Il y a cette autre chose qui vient nous aider pour qu'on passe l'âge d'être...
Oui, il y a
adulte et
il y a une moquerie, tu veux dire, oui.
Non, mais
non.
Il y a de la moquerie.
C'est un passeur.
Il y a toujours la douleur est toujours accompagnée. Oui. Je sais pas comment dire.
Oui, oui, oui. Il y a un petit contrepoint, je suis d'accord avec toi, qui se retrouve dans la dernière carte avec les traits blancs qui sont au-dessus du personnage bleu,
oui.
Qui font un peu comme dans les BD, quand ça fait un peu doung, doung, doung. Ça donne une espèce de légèreté ou de ressort, quoi.
Ouais. Ouais.
Et je trouve que c'est la même malice que le bouffon, le petit animal. Et... Donc ça veut dire qu'il y a aussi, même à l'intérieur d'états de possibles douleurs,
oui.
Quelque chose
qui est drôle,
qui peut être léger.
Oui,
ouais.
Oui.
Qui peut être comme un ressort, quoi.
Et oui, qui peut nous faire rebondir et exploser l'interdit dans cette blague qui fait qu'après, ben, on en trouvera un autre, hein, de toute façon.
Oui, ça crée une respiration, vous voulez dire.
De porte en porte.
Ah oui.
Mmh. Oh, la dololosa. On peut peut-être dire qu'on rend l'antenne donc, avec une musique, puisque ça va être... Merci beaucoup. On s'arrête là dans le temps donné. Est-ce qu'on a une musique sur la douleur ?
Ah ben oui, on va mettre Stabat Mater Dolorosa de Vivaldi, bien sûr.
Alors, je vous trouve ça.
Il y en a un qui s'appelle le Bowman, je crois. Qui est...
Vivaldi, on cherche. Merci.
Alors, c'est le deuxième qui apparaît. Voilà, au début, il y a juste des violons et après, ça va chanter.
Eh bien, merci beaucoup pour cette émission, Éléonore et Alain. À la semaine prochaine pour
C'était
les interdits. Bonne écoute sur Radio Campus Grenoble.
Bravo Éléonore.
Bravo à vous, vous m'avez guidée.
La dernière, elle te met dans l'embarras. C'est
vrai. Ouais, c'est vrai.
cette question de l'identité de la douleur comme frein à un dépassement.